Seigneur, nous courbons nos têtes et nos cœurs devant toi, d'abord pour te dire que nous t'aimons, tu es un Dieu bon et généreux, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui d'autre irions-nous? Tu nous aimes et rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous nous souvenons que tu veux non seulement notre bien, mais notre meilleur, et que tu le veux pour chacun, chacune de nos contemporains. Je te prie, Seigneur, que notre réflexion de cet après-midi, le temps avec les jeunes ce soir aussi, soit constructif, bienfaisant. Nous voulons nous remettre en question devant toi et aussi avec l'aide de ton esprit. Merci de nous l'avoir accordé. Aide-nous à poursuivre cette réflexion, non seulement maintenant, et je te prie de tenir mes frères et sœurs réveillés, si tu le veux bien, mais encore pour la suite de notre vie, éveillés à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais être un peu plus court sur la deuxième partie de cette réflexion, et pour apprendre un peu de temps pour l'échange, si vous le souhaitez. Je reviens brièvement sur la situation actuelle. J'aimerais redire, au travers de la méditation d'un texte biblique, l'importance de la vérité et de l'amour. M'arrêter plus particulièrement sur l'attention qui est due aux personnes et leur place dans l'Église, avant de conclure avec quelques pistes concrètes pour nous. Ça va ? Great. Super. Comme dit tout à l'heure, la question de l'homosexualité est peut-être... plus précisément de l'attitude des églises à l'égard des personnes homosexuelles, est certainement une des questions les plus brûlantes qui se posent aujourd'hui à nos églises évangéliques. Il y a de nombreuses raisons à cela. Il y a des questions politiques et sociales, bien sûr. Mais la principale raison est certainement le changement radical de l'image que notre société se fait de l'homosexualité et des personnes homosexuelles. Nous savons bien que nous sommes dans une société en constante évolution. Pendant très longtemps, les personnes concernées par l'homosexualité se sont retrouvées en marge de la société. Il y a encore peu de temps, en France, leur comportement était susceptible de tomber sous le coup de la loi. Depuis quelques années, l'évolution dans ce domaine spécifique est extrêmement rapide. Les homosexuels, gays et lesbiennes, sont entrés dans une sorte de lutte pour la reconnaissance de leur état et de leurs droits. L'impact de ce mouvement revendicateur a changé profondément le regard de la majorité des gens. Et le regard de beaucoup est passé de la condamnation et du mépris à une sorte de sympathie évidente. Je pense, personnellement, que des films comme Philadelphia, par exemple, ou plus près de nous, des séries comme Six Feet Under ou Orange is the New Black, ont joué un rôle important dans cette façon de regarder l'homosexualité avec une certaine sympathie. De même que la manière dont la communauté homosexuelle a subi les attaques du sida et a su se mobiliser pour y répondre. Le combat des personnes homosexuelles a obtenu nombre de résultats dans la législation même, en France, mariage pour tous. L'union des personnes homosexuelles dans la société a donné à la pratique de l'homosexualité les mêmes formes de reconnaissance sociale que l'hétérosexualité. Compliqué de s'y retrouver là-dedans en tant que chrétien. Alors au milieu de tout cela, quel est finalement le discours de l'Église ? On peut dire que pendant longtemps, l'enseignement des Églises a été en phase avec la pensée commune de la condamnation de l'homosexualité. La réflexion sur la nature même de l'homosexualité, sa critique était globalement semblable dans l'Église et dans la société. Et c'est ce qui est aujourd'hui devenu radicalement différent. Ce que pense l'Église, dans la mesure où elle prend au sérieux les données bibliques sur la question, est sans rapport avec l'ère du temps. Sans rapport avec l'ère du temps. L'Église se trouve donc dans une situation où, contrairement à d'autres questions éthiques, y compris en matière sexuelle, son discours n'est non seulement plus entendu, mais il est, pour ainsi dire, incompréhensible pour nos contemporains. La question de l'attitude à avoir vis-à-vis des personnes homosexuelles est donc devenue plus délicate que par le passé. Le simple fait que l'on expose des données bibliques est reçu comme une forme de rejet des personnes. Le simple fait d'exposer des données bibliques peut tomber sous le coup de la loi contre l'homophobie. Un des grands débats porte donc sur la nature de l'homosexualité. Je reviens un tout petit peu sur ce qui a été dit dans la première partie de cette réflexion pour compléter courtement. Simplement reconnaître que dans la pratique, je le redis, nous rencontrons plusieurs sortes de personnes concernées par la question de l'homosexualité. Il n'y a pas qu'une forme d'homosexualité. Certains se sont depuis toujours considérés comme homosexuels et aussi loin que remonte leur mémoire, ils n'ont jamais éprouvé de désir ou d'attirance pour des personnes de l'autre sexe. D'autres ont une sorte de double pratique et peuvent facilement se décrire, se considérer comme bisexuels. D'autres ont été amenés à des pratiques homosexuelles au cours de leur vie, en revoyant leur identité sexuelle, en la canalisant différemment. Et certains sont des homosexuels non pratiquants. L'image positive de l'homosexualité dans la société, sa revendication identitaire peut jouer un rôle important auprès de personnes dont l'identité sexuelle est à un moment donné fragile ou en cours de formation. Là, le contexte sociétal joue un rôle important. Certains qui auraient peut-être évolué autrement si l'image de l'homosexualité était purement négative peuvent aujourd'hui être tentés de s'orienter dans l'autre sens à cause de l'image relativement positive de la société sur l'homosexualité. Cette distinction entre une fragilité momentanée et une orientation subie peut avoir des conséquences sur la manière d'aborder et d'accueillir ces personnes dans nos églises. De fait, des hommes et des femmes qui se sentent et se pensent homosexuels entendent l'Évangile et frappent à la porte de nos églises. Face à cette situation, qui est plus fréquente aujourd'hui que par le passé, l'Église a traditionnellement fondé son enseignement à la fois sur les textes bibliques qui traitent de cette question et sur la conception générale de la sexualité que révèle la Bible. Les textes positifs, création, les textes négatifs qui condamnent les déviances, homosexualité comprise. Nous l'avons dit tout à l'heure, les textes qui abordent directement la question de l'homosexualité sont peu nombreux, mais extrêmement clairs. Ceux de l'Ancien Testament expriment une condamnation sans équivoque de toute pratique homosexuelle. D'autres, qui peuvent également concerner ces pratiques homosexuelles, présentent des actes abominables qui ne le seraient pas moins dans un contexte hétérosexuel. Il n'est pas question de ces problèmes dans les évangiles ou dans les actes des apôtres, mais on retrouve dans les épîtres, en contexte gréco-romain, un certain nombre de passages qui se font l'écho d'un regard semblable à celui de l'Ancien Testament. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Devant la clarté de ces textes, je vous suggère qu'il ne reste apparemment que deux attitudes possibles. Soit Et c'est le choix d'un bon nombre de théologiens. On considère ces textes comme étant le reflet de préjugés de l'époque. Soit on reconnaît, malgré les difficultés que cela peut susciter, l'autorité de la parole, et on accepte alors que ces textes qui appartiennent à la révélation nous donnent d'une certaine façon le regard de Dieu sur cette question. Et vous comprendrez que j'adopte personnellement la deuxième posture. La position traditionnelle est largement défendue dans nos églises évangéliques. Le regard de Dieu, des textes inspirés. Pas facile à comprendre des fois, mais des textes inspirés. Les textes que nous avons mentionnés sont compris dans nos églises évangéliques à la lumière de la conception positive de la sexualité et du mariage que nous trouvons dans les Écritures, de la relation homme-femme qui est une union dans la différence et qui souligne l'égalité et l'altérité du partenaire. Et ces textes contiennent des condamnations assez claires des actes homosexuels, non seulement comme ne correspondant pas à la volonté de Dieu, comme étant un résultat du péché, mais comme étant en plus le péché lui-même. Maintenant, une telle position qui est la mienne, qui est probablement la nôtre dans les églises évangéliques, ne résout pas le problème. Ça ne clôt pas le débat. Au contraire, c'est à partir de là que tout s'ouvre. Parce que s'il faut parler de péché quand on parle d'homosexualité, il ne s'agit pas du péché absolu. Parce que Paul le situe dans les listes qui parlent également de bien d'autres choses qui sont moins remarquées dans notre contexte culturel, comme l'adultère, comme l'idolâtrie, comme l'avarice, comme le vol, comme le trafic d'esclaves. Donc, pour Paul, l'homosexualité est un péché, clairement, c'est un péché, parmi d'autres. Et il faut surtout souligner que nous sommes tous pécheurs et que c'est à nous que l'Évangile s'adresse. La question qui demeure est donc celle de l'accueil des personnes homosexuelles dans l'Église, de la parole que nous pouvons leur adresser. Si nous ne faisons pas la distinction entre une nécessaire lucidité à l'égard du péché que nous apporte la parole de Dieu et la miséricorde et la compassion pour le pécheur dont Dieu lui-même témoigne, alors nous allons tomber sous le coup du jugement de Dieu. L'équilibre, il est là. Lucidité à l'égard du péché et miséricorde et compassion à l'égard du pécheur. Et c'est là le principe qui vaut pour quantité de questions éthiques, mais qui s'applique particulièrement à notre sujet. Le maintien en tension permanente de la vérité et de l'amour. Tension permanente. L'exemple pour moi le plus frappant, c'est sans doute celui du comportement de Jésus lui-même, et on va essayer de se laisser inspirer. Le comportement de Jésus lui-même à l'égard de la femme adultère. Regardez, suivez la lecture si vous voulez bien en Jean 8, en A11. Jean 8, en A11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. La place au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » On est mis là, avec ce texte, devant deux attitudes qui, au fond, nous seraient assez naturelles, je crois. La première attitude qui nous serait assez naturelle, c'est celle de ces hommes qui traînent cette femme devant Jésus. Alors, on est dans un contexte hyper patriarcal, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en 2017, on ferait beaucoup mieux dans l'absolu. Parce que, voilà, patriarcat, hein, c'est péché qui nous colle au basque à nous les hommes. Et au nom de la vérité, voilà ces hommes qui se font accusateurs, qui la condamnent sans appel. Et je pense que cette attitude est aussi une forme de protection. Ils se placent du bon côté, eux. Hein ? Eux, ils sont du côté de Dieu. Et tout le mal du monde, tout le mal du monde, à cet instant, repose sur cette femme. Elle concentre tout le péché. Et en plus, c'est l'adultère. Et en plus, elle a été prise sur le fait. C'est compliqué d'imaginer l'humiliation de cette femme. Je pense que la tentation a été et demeure grande d'avoir à l'égard des personnes homosexuelles une attitude semblable. Tout le péché du monde réside sur ces personnes. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être chrétien pour avoir cette attitude-là. Si on a cette attitude, on est dans une attitude de rejet pur et simple, de diabolisation d'un certain nombre de personnes qui représentent en quelque sorte tout le mal du monde et qui nous dispense d'être trop attentif à ce qui nous concerne nous-mêmes. L'homophobie doit être placée de ce côté-là. Ce comportement sexuel qui fait horreur n'est condamné qu'en rejetant les personnes concernées et en faisant ainsi, nous nous sentons, nous, du bon côté et puis libres et fiers de pouvoir être les juges. Nous nous sentons comme protégés, justifiés dans notre propre péché, puisque nous sommes, nous, du côté de Dieu, les bons. Et regardez ce que Jésus fait à ceux qui sont convaincus d'être du côté de Dieu, à ceux qui disent « Dieu est de notre côté, nous avons raison ». Ce que Jésus fait, et ça me frappe, hein, c'est qu'il les renvoie, ces hommes, à leur propre conscience. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Est-ce que Dieu condamne l'adultère dans l'Ancien Testament ? Oui. C'est un péché grave. qui mérite la lapidation. Pas rien, hein, la lapidation. Est-ce qu'ils ont raison de la condamner ? Non. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. La première attitude à laquelle me renvoie ce texte, c'est celle de la propre justice. Moi, j'ai raison. Et j'ai le droit de faire entendre ma voix. Pour que ces gens qui sont dans le péché soient condamnés à hauteur de leurs crimes, publiquement si possible. Et Jésus me dit, regarde ta vie, pense à ta vie. La seconde attitude qui serait peut-être plus moderne, ça serait celle de la compréhension. Parce que dans le fond, est-ce que l'adultère c'est si important ? Franchement, si important l'adultère ? C'est pas arrivé à tout le monde, non ? Petit coup de canif dans le contrat. Ça peut arriver à tout le monde. Et puis de toute façon, est-ce que l'important c'est pas d'aimer ? Si je l'aime, c'est pas grave. Si les choses sont faites sincèrement, c'est ce qui compte, la sincérité, non ? Et c'est souvent ce que nous entendons sur l'homosexualité. Il n'y a rien de grave. Ça fait de mal à personne. À la différence de l'adultère, d'ailleurs. Et puis, t'es qui pour juger ? Reconnaissons que cette pente-là, la pente de la compréhension, est forte aujourd'hui dans l'Église et que nous pouvons comprendre facilement ceux qui suivent la pente de la compréhension. Non seulement cette tolérance, cette compréhension des situations et des personnes est bienvenue dans l'air du temps, mais elle est tellement dans l'air du temps qu'il est difficile de ne pas la suivre. Et là, l'attitude de Jésus est autre. Parce qu'il dit à la femme, à la fin de ce passage, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. Donc, sa miséricorde à l'égard de la personne va de pair avec la clarté de sa dénonciation du péché. Je le redis, parce que là pour moi on est au cœur du cœur de notre attitude. Sa miséricorde à l'égard de la personne va de pair avec la clarté de la dénonciation du péché. Dans le « va et ne pêche plus », il y a à la fois la reconnaissance de la nature profonde de l'acte, l'acte c'est un adultère qui est un péché, et il y a l'espérance d'une issue, il y a la possibilité d'une vie nouvelle qui s'ouvre. « Va » et ne pêche plus. Ne pêche plus et va. Nous n'avons, nous, aucune possibilité de condamnation. Dieu seul est et sera le juge. Mais précisément, par notre capacité à dire ce qui est juste, par notre capacité à ne pas nous laisser engluer dans l'ambiguïté, nous avons la possibilité d'ouvrir une espérance. Nous avons la possibilité de permettre à quelqu'un de sortir d'une situation de péché dans laquelle il est enfermé. Va et ne pêche plus. Lucidité sur l'acte et miséricorde et compassion pour la personne. C'est là le chemin à suivre et toute la difficulté quand il s'agit d'homosexualité. Il s'agit alors, même si cela peut poser d'autres difficultés, de distinguer entre la personne qui ressent des attraits homosexuels et la relation sexuelle elle-même. Entre l'homosexuel qui est cette personne qui éprouve une certaine catégorie spécifique de tentation, comme les hétérosexuels en éprouvent d'autres, et celui qui succombe dans l'acte lui-même. La distinction elle n'est pas différente de celle qui peut exister entre celui qui éprouve du désir pour toutes les jolies femmes qu'il peut rencontrer, et il y en a, ce qui est la situation hétérosexuelle malheureusement banale, et celui qui commet finalement l'adultère. Il y a une distinction. Il faut porter de l'attention aux personnes. Et pour commencer, une personne ne se définit pas au regard de Dieu exclusivement par son orientation sexuelle. Une personne, elle se définit d'abord comme une créature merveilleuse de Dieu. Et en ce sens, n'importe qui doit pouvoir être respecté et accueilli. Le point de départ évident, à mon sens, c'est qu'une personne homosexuelle doit pouvoir être accueillie dans l'Église. L'homosexuel est un pécheur comme nous le sommes tous. Il a besoin de la grâce et de la délivrance de Dieu comme nous en avons besoin. Et l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, est pour lui comme il est pour nous. La parole de Dieu sera pour lui comme pour nous, à la fois lumière sur la vérité de sa situation et promesse de rédemption. Si donc la prise de conscience de son péché est comme pour chacun nécessaire, la question de son homosexualité ne sera pas la seule question, ni peut-être la première question à être portée à la lumière. Il faudra sans doute beaucoup de tact, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, pour que le fait que nous refusions de voir dans l'homosexualité quelque chose de neutre et de naturel ne repousse pas immédiatement la personne. La difficulté de notre situation actuelle réside donc essentiellement dans l'attention que nous portons aux personnes. Certains, plus nombreux qu'on le croit souvent, vivent douloureusement leur situation et sont donc à la recherche de quelque chose, d'une libération. Ils sont alors capables d'entendre la parole, parce que la parole devient à la fois un diagnostic et un remède. Et beaucoup d'autres seront à ce point choqués par la non-acceptation de ce qu'ils considèrent comme étant leur identité la plus profonde qu'ils n'écouteront pas, qu'ils se sentiront blessés, indignés, et il n'existe sans doute pas de moyen pour échapper à cette situation. On doit faire tout notre possible pour limiter ce danger, pour ne pas donner l'impression à notre interlocuteur cette fausse impression qu'il est rejeté, mais nous n'y réussissons pas toujours. Et directement relative à cette question de l'attention due aux personnes, se pose la question suivante. Et là, ça n'engage que moi, mais la question suivante. Guérison ou accompagnement ? Dans nos milieux évangéliques, il y a un débat constant entre ces deux approches qui toutes deux espèrent rendre compte de la bonne nouvelle aux personnes homosexuelles. Les uns mettent l'accent sur la promesse toujours présente de la délivrance et de la guérison. Pour ses amis, tout homosexuel aurait donc la possibilité, une fois qu'il a pris conscience de sa situation, qu'il s'en est repenti, de sortir de son état et de retrouver une sexualité dite normale, hétérosexuelle. Il lui serait donc possible de se marier et d'être libéré de toute tentation homosexuelle. Seule la grâce et la puissance de Dieu peuvent accomplir ce miracle qui n'est pas différent de la libération que tout pécheur peut expérimenter par l'Évangile. Des mouvements de qualité proposent même un accompagnement qui va dans ce sens, et nombreux sont ceux qui, pour l'avoir vécu, semblent pouvoir témoigner de cette libération. D'autres, en revanche, dont je suis, sans nier la vérité de la position précédente, sont moins persuadés qu'elle puisse s'appliquer systématiquement à toutes les personnes homosexuelles. À mon sens, plus l'homosexualité est constitutive de l'identité sexuelle, moins il est facile d'imaginer un renversement radical de l'identité. Si certains pourront passer de manière durable de l'homosexualité à l'hétérosexualité, d'autres seront plutôt appelés à accepter leur situation et à vivre dans la chasteté. L'accompagnement dans ce cas est différent. Je ne nie pas, mes amis, la capacité de Dieu à changer les choses. Je ne nie pas la capacité de Dieu de guérir les conséquences du péché. Mais je veux remarquer que cette guérison, qui dans certaines situations relève du miracle, cette situation, cette guérison, n'est pas systématique. D'ailleurs, plus globalement, on pourrait dire que bien des malades, bien des handicapés, sont appelés à vivre avec leur maladie. Et pourtant, nous avons des promesses de délivrance, de guérison dans l'Écriture. Le miracle, alors, il est où ? Le miracle, il est intérieur. Il est dans les profondeurs. C'est l'œuvre de l'Esprit qui permet d'assumer dans la paix, dans la joie, une situation qui, en l'espèce, n'est pas radicalement modifiée. Je suis conscient que cette perspective-là, elle choque parfois des chrétiens et même des non-chrétiens. Ils oublient peut-être que la chasteté n'est pas une malédiction inacceptable qui enfermerait les seuls homosexuels dans une situation insupportable. La chasteté, c'est une partie de l'enseignement chrétien qui concerne toute personne. Il existe d'innombrables personnes qui ne se marient pas. Certaines restent seules par vocation, peu, beaucoup par nécessité, et elles sont toutes appelées à vivre dans la chasteté. Tout désir ne peut pas être satisfait dans la vie. Et on peut vivre, en particulier avec l'aide de Dieu, une certaine dose de frustration qui peuvent devenir maîtrisées, voire constructives. C'est le cas de bien des personnes, mariées ou non, qui n'ont pas la possibilité de satisfaire tous les désirs qui peuvent être les leurs sur le plan affectif, sur le plan sexuel. Et je crois que c'est là en particulier que l'Église devient un lieu de fraternité, un lieu de soutien, un lieu d'échange, qui ouvre à des relations fortes, des relations vraies, qui sans être sexuelles, vont néanmoins répondre à des besoins affectifs naturellement et douloureusement ressentis. Ce qui est donc en jeu ici, c'est la capacité de nos églises chrétiennes à être accueillantes, en l'occurrence à l'égard de personnes homosexuelles, mais également de bien d'autres. L'attention due aux personnes. Est-ce que des personnes homosexuelles peuvent, dans le contexte d'églises de professants, être baptisées? Est-ce qu'elles peuvent être membres de l'Église? Ah, je me mouille, hein. Je suis un peu comme ça, malheureusement. Après, ça me joue des tours, mais... Bah, moi, il me semble que la réponse ne peut être que oui, effectivement. Pourquoi ? Pourquoi oui ? Parce que l'Église... Il n'y a plus d'Église ! Qu'est-ce qu'on fait si on enlève tous les pécheurs ? Ben, on se lève tous, puis on se casse, on va au match ou à la piscine. Non, pas au McDo quand même. Non, parce que là, c'est vraiment le péché par... Non. Non, mais l'Église, c'est une communauté de pécheurs repentis qui cherchent à suivre leur Seigneur. Et c'est justement tout le défi pour nous. une personne qui découvre la foi, qui veut entrer dans l'Église, ne devient pas par là même du jour au lendemain un saint ou une sainte. On est en droit d'attendre que cette personne accueille l'enseignement de l'Évangile ou qu'elle cherche, quelles que soient les difficultés, à y conformer sa vie. Mais ça ne devient pas un saint ou une sainte. C'est un pécheur repenti. Dans ma compréhension, l'homosexuel est un pécheur dont le péché n'est pas plus grand que les autres. Son état, qu'il n'a parfois pas choisi, n'a, à mon sens, rien de disqualifiant qui ne puisse l'empêcher d'être un disciple de Jésus-Christ. Encore faut-il qu'il ou qu'elle accepte cet éclairage que la révélation de Dieu apporte sur sa situation, qu'il éprouve souffrance et difficulté pour conformer sa vie à la volonté de Dieu, c'est naturel, ça n'a rien d'extraordinaire, on est tous dans le même cas, non? Et l'Église doit savoir faire preuve de patience. Et chaque chrétien peut, en fonction des problèmes particuliers qui sont les siens, se regarder dans la glace pour comprendre que la patience, c'est une nécessité dans l'Église. À mon sens, cela signifie qu'une personne homosexuelle a sa place dans la communauté. Elle doit même pouvoir être accompagnée et entourée afin de mieux vivre une situation qui va forcément être douloureuse, en particulier si nous sommes une église qui prêchons la chasteté. Ça va être difficile, ça va être douloureux. Ne pas se marier, ne pas adopter. Maintenant, si une personne cherchait à justifier un comportement à l'évidence contraire au chemin que le chrétien s'engage à suivre, alors là, les choses deviendraient différentes. La volonté de se justifier, la volonté de continuer à vivre comme auparavant, en disant « je suis fait comme ça, je ne changerai jamais », ça rendrait manifeste le rejet de la parole qui dérange. Il est possible et même probable que cette personne soit parfaitement sincère, qu'elle ait vécu une expérience avec l'Évangile, mais influencée par ceux qui plaident pour une révision des conceptions de l'Église dans ce domaine, elle sera certainement indignée par la fermeture, l'étroitesse de cette communauté qui s'éloigne de l'accueil chrétien des faibles et des petits. Elle aura l'impression d'être plongée dans une sorte de racisme anti-homosexuel. J'entends et je comprends cette réaction. L'ambiance actuelle la rend presque inévitable, au moins dans un premier temps. Mais c'est à nous, c'est en tant que membres d'Église, de montrer par notre accueil et par notre disponibilité que nous sommes ouverts à aller plus loin. Quelle place pour les homosexuels dans l'Église? Dans ma compréhension des choses, l'homosexuel qui entendra l'Évangile, qui souhaitera s'engager dans l'Église en voulant, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de ses frères et sœurs, se dégager de son ancienne manière de vivre, cette personne, elle aura pleinement sa place dans l'Église. À mon avis, cette personne pourra, au même titre que tous les autres, en fonction du discernement des dons, en fonction du discernement des compétences, elle pourra exercer les ministères qui sont nécessaires à la communauté. Évidemment, on évitera de placer ceux qui se trouveront en plein conflit intérieur dans des situations de tentation qui pourraient être pour eux l'occasion de rechuter. Mais lorsqu'un équilibre nouveau est trouvé, et cela même si la personne garde son orientation fondamentale, mais est décidée à vivre dans la chasteté et la confiance en Dieu, rien n'empêche qu'elle puisse accéder aux différents ministères dans l'Église, si elle s'en sent capable et si l'Église le confirme. Il est évident qu'une part non négligeable de ce discernement reposera sur l'évaluation de la maturité que la personne manifeste dans sa manière d'assumer son orientation sexuelle et de la maîtrise dont elle fera preuve à l'égard des tentations. Mais en tous les cas, il y a une sagesse à mettre en œuvre pour discerner la place que Dieu veut pour chaque personne dans l'Église. Compte tenu de ce que je viens de dire, il faut être conscient de ce que le meilleur de nous-mêmes est souvent fait de nos cicatrices. Souvent fait de nos cicatrices. Et l'expérience douloureuse que nous avons connue est parfois la manière dont nous avons été ouverts à la souffrance des autres. Dans ce sens, il me semble bon et souhaitable que nos églises puissent avoir des membres et des responsables qui soient des témoins, des exemples vivants, que l'on peut, en venant aussi de l'homosexualité, vivre une vie humaine et chrétienne, épanouie et heureuse. L'accueil des homosexuels dans l'Église, dont j'ai dit plusieurs choses jusqu'ici, serait d'ailleurs grandement facilité et pacifié si nous savions montrer ces qualités-là. Je conclus avec trois pistes pour nos églises. Trois pistes. La première, c'est qu'il nous faut lutter contre l'homophobie. Aimer son prochain comme soi-même. Se comporter à l'égard des autres comme nous souhaiterions qu'ils se comportent à notre égard. Cela concerne aussi notre attitude à l'égard des personnes homosexuelles. Je crois qu'il est juste de le rappeler, parce que la tentation, elle est grande, dans une période de polémique sur ces questions, de se laisser simplement emporter par les mots et par les arguments. L'Église voit parfois s'affronter un lobby homosexuel et un front homophobe qui n'osent pas dire leur nom. Le risque existe de se laisser aller à des alliances tordues en croyant défendre la vérité et dénoncer l'erreur. La vieille haine rassurante de celui qui est différent de soi restera toujours tapie quelque part au fond de chacun d'entre nous. Il serait alors tentant de lutter par le mépris et d'exprimer ce qui n'est rien d'autre que des réactions viscérales, de stigmatiser telle personne parce qu'homosexuelle. L'Écriture et l'Église peuvent alors devenir des arguments supplémentaires dans une lutte qui n'a rien de chrétien et qui n'est que la manifestation de vieux démons. Je crois que nous, chrétiens, nous devons revenir sans cesse à l'exemple de notre Maître qui disait la vérité dans l'amour et qui ne confondait jamais la sainteté avec le rejet de l'autre. Pourquoi faut commencer par là? Eh bien, simplement parce que c'est le seul moyen d'avoir une chance d'être entendu. Lorsque nous voulons dire à nos interlocuteurs homosexuels que l'Évangile est aussi pour eux comme il l'est pour nous. Lutter contre l'homophobie. Chez nous, chez moi, dans ma vie, comme dans l'Église. Lutter contre l'homophobie. Et puis travailler à l'accueil des homosexuels. Il y a tellement à faire dans ce domaine. Est-ce que nous sommes disposés, sans juger les personnes, mais en disant la vérité, à les accueillir avec tout ce que cela peut comporter de bienveillance, d'écoute et de temps ? Plus simplement encore, sommes-nous capables de trouver les mots et ne pas, par des attitudes involontaires, faire fuir ceux qui sont venus dans nos églises en recherche de Dieu ? Peut-être que leur recherche est mal formulée, peut-être qu'ils n'arrivent pas à le dire, mais ils cherchent quelque chose de différent, quelque chose de neuf. Il existe des associations chrétiennes qui cherchent à accompagner les homosexuels, qui les connaissent bien, et qui sont en partie composées d'hommes et de femmes qui ont connu ces problèmes-là. Ces associations peuvent apporter une aide précieuse, torrent de vie, par exemple. Des églises qui souhaitent consciemment annoncer l'Évangile peuvent, sans le vouloir, laisser à la porte ceux qu'ils considèrent comme des indésirables, par une sorte de ségrégation confortable qu'en tant qu'Église, elles ne perçoivent même pas. Lutter contre l'homophobie, travailler à l'accueil des personnes homosexuelles, et puis de la lucidité et de la miséricorde. Si la tentation de l'homophobie est une réalité, y compris chez nous, celle de la conformité à l'ère du temps en est une autre de tentation. Nous sommes confrontés à un dilemme. L'autorité à laquelle nous nous référons, est-ce que c'est la parole de Dieu ou est-ce que c'est l'ère du temps? Une piste non négligeable ici qui nous fait progresser, c'est d'exercer la lucidité à l'égard des actes et la miséricorde pour les personnes. Il faut éviter deux abîmes. Celui du légalisme qui rejette les personnes pour garder les principes et celui du laxisme qui brade la vérité par conformité à l'opinion du monde. Ce chemin, il est difficile pour tout le monde. Et on le quitte souvent se croyant justifié en abandonnant les autres. Je conclue. L'homosexualité, ça représente moins une façon de vivre que des personnes homosexuelles. Encore une fois, derrière nos grands principes qui sont indispensables, il y a toujours des êtres humains avec des craintes et des souffrances. Et ce sont ces gens-là qui intéressent le Seigneur. Ce n'est pas les propres justes. Ce n'est pas ceux dont la vie est lisse. Ce n'est pas ceux pour qui tout roule. C'est ceux qui sont brisés. C'est eux qui intéressent le Seigneur. Et plus c'est brisé, plus la grâce veut agir. Et c'est ces gens-là qui devraient intéresser nos églises. Vous rendez compte là, croissance de notre région. Incroyable, hein, des deux côtés de la frontière suisse. Hein. Nous, en Haute-Savoie, vous ici, je visitais une église à Mérin l'autre jour. 3000 logements dans l'éco-quartier des Vergers à Mérin. 3000 logements, 3000 nouvelles personnes ou plus qui vont arriver. Ça intéresse l'église. Ça intéresse le Seigneur. Des gens qui viennent, qui sont là, qui ont besoin d'entendre l'évangile. Derrière les grands principes indispensables, des êtres humains avec des craintes et des souffrances, avec du péché, avec des brisements, qui ont besoin de l'évangile de la grâce pour les restaurer et pour les accompagner sur le chemin de la vie. Ce sont eux qui intéressent le Seigneur, ce sont eux qui intéressent l'Église, parce que c'est à eux que l'évangile s'adresse. S'il faut que l'Église tienne compte de ce que l'Écriture dit sur l'homosexualité, c'est avant tout parce que l'Église croit que la lucidité à l'égard d'un mal est le préalable nécessaire à sa guérison. Si on veut guérir, il faut être conscient du mal. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit quel est le mal. Pas pour dire que c'est le mal point barre et qu'on arrête là, mais pour dire que l'Évangile vient guérir ce mal. Si le Dieu d'amour souligne si fermement ce qui relève du péché, c'est parce que ce Dieu-là, il a à cœur de sauver et de donner la vie. Voilà, à mon avis, l'unique raison de la fermeté des églises sur la question de l'homosexualité. Nous sommes fermes parce que le péché doit être condamné pour pouvoir être sauvé. Parce que le pécheur doit reconnaître son péché pour pouvoir être sauvé. Toute autre raison serait ambiguë. Et nous n'avons sans doute pas fini de traquer en nous-mêmes les mauvaises raisons qui nous poussent à dire parfois des choses justes, de la plus fausse manière qui soit. Notre vocation, et je finis avec ça, notre vocation, c'est de dire à tous et toutes, y compris aux personnes homosexuelles, l'évangile de l'amour de Dieu manifestée en Jésus-Christ et sa capacité infinie, phénoménale, de faire toute chose nouvelle. On est là pour ça. Tout le reste, la garniture. Que le Seigneur nous encourage, vous encourage, dans cette voie-là, et j'ai promis de faire plus court sur la deuxième partie, j'ai tenu, enfin j'essaye. S'il y a des questions, des remarques, des témoignages, volontiers pour essayer d'y répondre. Sinon, dans ces cas-là, on a une grosse crainte. Hein. C'est soit d'avoir été beaucoup trop clair, soit d'avoir été tellement obscur qu'on a perdu tout le monde. Mais...
Son homosexualité, qui est même débridée dans son d'aller picorer à droite à gauche, et qui semble se réaliser comme ça, qui connaît ma position et voilà, et qui, avec laquelle on mange régulièrement ensemble. La dernière fois, c'est encore elle qui m'a sollicité, et en général, on appelle à retourner au boulot à l'heure, parce qu'elle ne critique en rien ma position, ni ne justifie la sienne, mais pour elle c'est comme ça, mais en même temps là derrière, c'est que pourquoi on passe du temps ensemble dans la discussion, derrière sa façon d'assumer quelque part et de c'est comme ça et c'est tout, elle écoute très largement la discussion, sans la commenter, sans la critiquer, sans a priori la recevoir, mais voilà. Et donc derrière quelque chose qu'on pourrait, comme la société trouver finalement c'est normal qu'on l'accepte comme ça, je ressens moi un besoin d'échange. Et jamais je n'ai eu à condamner ou à prendre position clairement, il a quand même. Voilà, dans tout ce que tu disais, je ressens cet aspect de la miséricorde, de la clarté de la position, et puis en même temps d'être repris par ce fait de. C'est devenu normal et finalement on n'a plus grand chose à dire, on n'a plus d'autres mots à dire et on s'aperçoit que quand on se positionne, ces personnes avec qui on a des relations, non seulement ne les rejettent pas, mais presque les recherchent et sont dans un partage très ouvert. Et donc moi je trouve ça encourageant, sans pour autant réussir à la convaincre de quoi que ce soit jusque-là. En tout cas, ça m'ouvre au fait qu'on pourrait se dire. En lisant quelques textes, ils sont perdus pour la cause, quoi. C'est pas la peine, de toute façon ils assument leur geste, ils sont dedans, et en tout cas c'est pas c'est dans cette expérience ça m'a ouvert les yeux sur cet aspect. Merci.
La plupart des personnes homosexuelles, hommes et femmes, nous avons, ma femme et moi, eu l'honneur d'accompagner ces dernières années, vivent dans le fond un désespoir profond, y compris celles qui revendiquent, et particulièrement les personnes qui courent d'aventure en aventure. Parce que le désir initial dont j'ai parlé, le désir d'aimer et d'être aimé, n'est jamais satisfait d'aventure en aventure. Et moi, plutôt, dans ces cas-là, mais il faut du temps, hein, plutôt que de parler du fait est-ce que tu ne devrais pas te poser, finalement, et aller sur leur terrain, ce qui heurterait ma conscience, j'ai envie de leur parler de celui dont l'amour ne les décevra pas. Et en même temps, de l'amour qu'ils pourront avoir pour lui. Et de la réalisation de leur vie là au travers. Alors, il faut être prudent. parce que l'amour avec le Seigneur n'a pas la connotation physique dont nous avons besoin, mais il vient combler des vides, des vrais vides. Mais c'est, voilà, c'est difficile. Et je pense que l'attitude remarquable que tu as, elle aide à combler ces fossés, petit à petit. Après, c'est à la grâce de Dieu. Anne-Marie.
Est-ce qu'il ne faut pas accueillir les personnes homosexuelles en pensant qu'elles vivent beaucoup une certaine solitude, qu'elles recherchent cette vraie amitié, cette amitié désintéressée?
C'est une très bonne remarque. Alors, j'ai des notes manuscrites sur le sujet. Moi, je me suis fait piéger par ça, personnellement. Et j'ai mal mis mon temps et mon accompagnement en finalement ne me concentrant que sur cette solitude et en cherchant à les mettre en contact avec des personnes qui pourraient venir combler cette solitude. Et à un moment donné, on oublie le message profond de l'Évangile. Je crois que c'est juste, l'Église elle est là parfois pour combler une certaine solitude, mais ce qu'on souhaite pour ces personnes, c'est l'impact de l'Évangile dans leur vie. Et tu pourrais, j'en connais, hétéro comme homosexuel, vivre une profonde solitude et être satisfait en Christ quand même. Donc moi je sais que dans mon accompagnement, je me suis fait piéger par cet aspect-là en me disant, oui, cette personne, elle recherche de l'affection, elle recherche du temps, donc on va ouvrir tout grand la maison, on va la mettre en relation avec des personnes qui savent le faire, mais le vide profond n'était toujours pas comblé. Maintenant, encore une fois, je redis, je suis convaincu que l'Église comme communauté, elle va pouvoir apporter ce tissu relationnel aux personnes qui le recherchent. Mais il ne faut jamais oublier, voilà, qu'on n'est pas un club. Si c'est juste le tissu relationnel, et je sais que ce n'est pas ce que tu penses, hein, mais si c'était juste le tissu relationnel, va à une chorale, un club pongiste, il y a peut-être même des fan clubs du McDo, je ne sais pas, pardon, non. Va dans une assos, quoi. Nous, la différence, c'est que on a envie de prêcher l'Évangile.
La grosse difficulté dans ta réponse de la limite entre la miséricorde et l'amitié. Entre guillemets, l'amitié qui est mal reçue par les gens qui sont en difficulté.
Alors, je ne pense pas avoir utilisé le mot pitié, ou alors si je l'ai utilisé.
Lucidité
à l'égard de la personne, ou de son péché. Clairement, mon gars, c'est une fille, hein. Enfin voilà, je suis désolé, on peut le prendre comme tu veux, mais l'Écriture décrit ce que tu fais comme un péché. Mais miséricorde pour toi, c'est possible de te relever. Mais je le dirais, alors là on a parlé des homosexuels, mais je le dirais de la même façon voilà, pour quelqu'un qui est menteur, voleur. Il y a du taf, oui, c'est sûr. Mais c'est le sens de l'Église. C'est le sens de l'Église, on est là pour ça.
Parce que mon grand frère nous a annoncé il y a 5 ans qu'il préférait le garçon. Et moi je suis convaincu que c'est un problème de. C'est un mensonge que l'ennemi a mis dans sa tête. Et au début je me suis dit, mais. Et le pasteur à l'époque dans l'église où j'étais, il a dit à mes parents, mais ouais, je suis embêté parce que par rapport à votre fils, j'aurais aimé lui en parler, parce que je sentais des choses. Et je me suis dit, mais c'est trop con, quoi. Non, mais si, et en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est un problème? Et on n'a pas un problème avec, pour moi, dans les églises, par rapport à l'acceptation de l'homosexualité. Pour moi, dans les églises, on a un problème de discuter sexualité.
Oui.
Et tout à l'heure, tu parlais du. Tu vas parler au groupe de jeunes du cadre de la vie de couple, du mariage, de la sexualité. Alors, je suis plus jeune, c'est dommage. Oui, ça va, mais je ne coupe pas beaucoup de jeunes. Alors, mais je crois que c'est ça qui est important de rappeler le cadre et le standard de Dieu pour la sexualité. Et c'est ça. Après, y a des, comme dans tout, il y a des cas particuliers, il y a des problèmes liés à ça, mais je crois qu'on n'insiste pas assez. Et puis, ce qui se passe dans le mariage, la sexualité, tout ça, c'est dans la sacro-sainte chambre à coucher, donc on n'en parle pas et ça n'existe pas. Et non, mais c'est vrai, c'est vraiment comme ça que c'est que moi je pense que c'est. Et puis du coup, on n'en parle pas, donc les tendances et les penchants de mon frère, il n'en a pas parlé parce qu'il se sentait jugé, il avait peur de ça, donc on n'en parle pas. Et puis un jour, c'était soit il admettait être comme ça, soit il mettait fin à sa vie. Donc voilà, donc c'est. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à là. Et c'est pour ça qu'à un moment, moi je suis convaincu que l'ennemi lui a dit, mais si, bon, allez, au monde, si, c'est bon, au monde, tranquille. Et puis en plus, tu vois, il va faire une loi bientôt, vas-y, tu vas même pouvoir le marier, tu vas pouvoir adopter un enfant. Et pour moi, c'est clairement un mensonge de l'ennemi. Un papa, un maman, on n'aime pas nos enfants. Non, mais c'est.
Avant de parler des interdits, nous devons parler du cadre initial, du projet de Dieu pour l'homme et la femme qui est bon, qui est très bon. Il n'y a pas seulement le texte de la Genèse. Le texte de la Genèse, il est super important, parce qu'en plus, le Seigneur Jésus lui-même y fait référence, l'apôtre Paul lui-même y fait référence. C'est important. Mais il y a un livre entier qui en parle, la Cantique des Cantiques, c'est chaud bouillant. Et ça, je trouve que c'est. Enfin, avant de dire oups, pas ceci, pas cela, parlons du cadre défini. Avant de parler des interdits, il faut parler de tout ce qui est permis. Mais oui, effectivement, pour plein de raisons, mais qui sont essentiellement historiques, hein, nous sommes des évangéliques, nous sommes issus de la Réforme. Le rapport au corps, c'est complexe. Et ça remonte très loin. Mais ça vaut le coup de se poser des questions là-dessus. En plus, il y a plein de bons bouquins, etc. Mais je suis convaincu qu'avant de parler des interdits, qu'avant de parler des déviances, il faut parler de tout ce qui est beau et bon et que le Seigneur a déjà fixé. Ça va ?
Philippe, une autre question. Donc, tu nous as expliqué que la position de Dieu et de la Bible est claire par rapport à l'homosexualité. Comment, en tant qu'Église et qu'association, tenir ce discours sans être considéré comme homophobe? Est-ce qu'il y a pas des nuances, parce que la Bible est tellement claire qu'il n'y a pas de nuances possibles, mais comment faire face à cette question, finalement, face à ce problème?
Alors, sur une corde raide, je vous suggère que le CNEF dont vous êtes membre a fait des travaux remarquables sur cette question, en particulier Nancy Lefebvre, la juriste principale du CNEF. Je pense qu'il y a des choses formelles, il y a des choses qui sont moins formelles. Dans les choses formelles, à mon avis, il faut être prudent à la parole publique, sur la parole publique, celle comme aujourd'hui. Par exemple, cet enregistrement, il est indispensable qu'il ne se retrouve pas n'importe où sur la voie publique. Hein, mais je sais que Philippe est au fait de ces choses-là. Après, je pense que dans les textes, pour être formel, les ressources du CNEF sont excellentes. Si ma mémoire est bonne, pour ne pas être taxé d'homophobie, il y a cette idée de faire référence à un texte qui est considéré comme faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité. Et le fait que ce texte soit reconnu comme étant constitutif du patrimoine mondial de l'humanité ne permet pas, si on y fait référence, d'être taxé d'homophobe. Là où on peut être taxé d'homophobe, c'est si dans nos statuts, principes de fonctionnement, je ne sais pas comment vous fonctionnez vous exactement, il y avait par exemple un article qui disait telle responsabilité ou le statut de membre est par exemple fermé aux personnes homosexuelles. Là, ce serait clairement de l'homophobie. Puis après, il y a tout ce qu'on véhicule. Et tout ce qu'on véhicule, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une matière qui est, à mon sens, délicate. On va tous se planter. Mais il y a notre langage corporel, les mots qu'on utilise, la façon dont on serre la main, dont on se tient à distance. Et c'est là qu'à mon sens, toute la miséricorde à l'égard des personnes doit se trouver. Dans notre église locale, moi j'ai rencontré parfois quelques difficultés parce qu'on m'a dit « Ouais, mais tu passes quand même pas mal de temps avec ces personnes homosexuelles, hommes ou femmes. » C'est-à-dire, tu leur fais la bise... À un moment donné, il y a eu une forme de soupçon. Ça m'a fait très mal, bien sûr, mais je me suis dit, tiens, je préfère être soupçonné d'accointance que de défiance à l'égard de cette personne-là. Comme je préfère personnellement passer du temps avec une personne malade le dimanche matin ou qui n'a pas la possibilité de s'exprimer. On accueille par exemple une personne lourdement handicapée. Je ne comprends rien ce qu'elle me dit, si elle n'est pas accompagnée. Mais j'ai l'impression d'avoir gagné mon dimanche matin avec cette personne plutôt que d'avoir parlé avec le gars qui est là tout le temps en cravate et qui a réponse à tout, machin, tout ça. Bon, voilà, c'est un risque, c'est le risque de l'évangile. J'ai l'impression que c'est le risque qu'a pris le Seigneur Jésus. Voilà, un jour on en rendra compte. Maintenant, moi je vous encourage à solliciter le CNEF parce qu'ils ont fait, je crois il y a 2 ans, c'était juste après le séminaire Évangile 21, le dernier séminaire Évangile 21 qui a lieu à l'Institut biblique à Genève, ça devait être il y a 2 ans. L'année passée. C'était mai 2016. Alors, l'année passée, suite à ce séminaire, parce qu'il y a eu des questions importantes qui ont été publiquement posées, à ma connaissance, le CNEF a pondu un document de référence. Pondu. Ah. Rédigé un document de référence. Ça va ? Merci beaucoup pour votre attention, Clément.
Par rapport à la provenance de l'homosexualité, pour moi c'est assez flou. Vous avez dit qu'il y a 3 catégories. Moi j'ai appris surtout qu'il y en avait 2, ceux qui choisissent et ceux qui le sont dès le départ. D'après ce que c'était pour la deuxième partie, j'ai compris que le pourcentage des gens qui font le choix est du coup très très grand. Moi je voudrais savoir par rapport à la répartition des personnes homosexuelles dans les différentes civilisations, est-ce que c'est à peu près la même proportion ou est-ce que ça varie? Est-ce que ça peut varier par exemple en fonction de certains éléments? Ou est-ce que c'est vraiment juste avec
Il y a des évolutions, alors il faudrait beaucoup de temps, il y a des évolutions en particulier dans les sociétés qui encouragent l'homosexualité. Dans la civilisation grecque, par exemple, et je pense que Paul vise beaucoup ça dans ses textes, les jeunes garçons prépubères avaient dans leur parcours d'éducation une initiation à l'homosexualité. Là, je pourrais te renvoyer, j'ai une liste là de documents très intéressants qui étudient ce genre de choses-là. Moi, je ne l'ai pas étudié dans le détail, mais je sais, voilà, vraiment, dans la civilisation gréco-romaine, où l'homosexualité était considérée comme une vertu, quelque chose qui ouvrait à la connaissance, ça touchait beaucoup plus de monde. Comme il est évident aujourd'hui que dans notre société, qui favorise, qui encourage, qui dogmatise quasiment l'homosexualité, il est plus facile de laisser libre cours à ce qui pourrait être une forme de choix. Parce que t'es moins regardé. Tu veux y aller, vas-y. Je veux dire, la Gay Pride, la première, ils étaient 3 000, ils sont 3 millions aujourd'hui. C'est pas la même chose. Mais je suis pas un spécialiste de la question. Si le sujet intéresse, alors là, la ressource en particulier de Thomas Schmitt, l'homosexualité, perspective et réalité contemporaine, a étudié le sujet à fond. À fond. Je ne peux pas te répondre beaucoup plus là-dessus.
Mais donc, il y a des variations assez importantes par rapport à diverses civilisations.
Oui, mais l'homosexualité a toujours existé dans toutes les civilisations. Mais à différentes intensités. Ouais. Mais à différentes intensités. Merci beaucoup pour votre attention.